Alors, pour cette dernière séance du séminaire, nous allons étudier un cas de transfiguration, ce que j'ai appelé de la transfiguration in situ, c'est-à-dire de constitution d'un paysage à partir de travail sur le végétal et en particulier une institution tout à fait particulière qui sont la constitution de ce qu'on appelle les bosquets ou les forêts sacrées en Afrique de l'Ouest. Et je suis très heureux pour parler de cette question de recevoir Dominique Jouet-Bolaton, qui est une spécialiste d'une discipline qui est en fond émergente depuis quelques années, qu'on pourrait appeler l'écologie historique dans le monde anglo-saxon, l'histoire environnementale en France, et qui est l'étude de la constitution, de la transformation des écosystèmes au fil du temps. Et l'écosystème auquel c'est particulièrement intéressé est particulièrement digne d'intérêt, parce que ce sont ces forêts qui entourent dans certains cas, les villages, qui sont à proximité des villages en Afrique de l'Ouest. Elle a plus particulièrement travaillé au Bénin et au Togo. Et forêts qui ont longtemps été considérées, j'en avais parlé un peu dans mon cours en commentant le livre de Leach et Fairhead, Misreading the African Landscape, qui ont fait une recension une étude très détaillée de la façon dont se sont constituées ces forêts que les agronomes et les forestiers coloniaux ont longtemps conçues comme étant des espaces résiduels, des débris d'une forêt primaire qui avait été en partie détruite par les populations locales imprévoyantes et manquant de discernement, et dont on s'est aperçu par la suite, au fil du temps, grâce aux travaux des géographes et des historiens comme Dominique Jouet-Bolaton, qu'il s'agissait en réalité de forêts en grande partie plantées ou en tout cas préservées de façon tout à fait systématique. Donc toute la question de savoir, c'est ce dont nous allons parler lors de la discussion qui va suivre l'exposé, toute la question de savoir comment traiter, comment appréhender ces espaces très particuliers que sont les forêts sacrées.
Bon, mais tout d'abord, je remercie bien sincèrement Philippe Descola de m'avoir invité à vous présenter aujourd'hui mes recherches sur les bois sacrés, car en effet, il représente un exemple intéressant d'artialisation in visu d'une portion de pays, pour reprendre les mots clés du séminaire. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Les sanctuaires boisés en zone de savane, des éléments fondateurs de paysages ». Donc, la préparation de ce séminaire a été pour moi l'occasion de revisiter la question de ces éléments de la nature que sont les sanctuaires boisés, communément appelés arbres et bois sacrés, dont j'ai suivi l'évolution depuis 1990. Alors, ma démarche de départ était de retracer l'histoire de ces paysages dans une région située en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, plus précisément donc dans la partie méridionale du Togo et du Bénin. En effet, cet espace était connu sous le nom de Côte des Esclaves et comprend donc le territoire de l'ancien royaume du Dahomey. Donc, cette région correspond à l'ère culturelle à Djatado, car les populations de la région ont toute une origine commune, située à Oyo, une cité yoruba du Nigeria. Alors, elles se sont progressivement installées entre le 15e siècle et la fin du 19e, et elles présentent des caractéristiques culturelles communes, notamment sur le plan de la linguistique et de la religion. En effet, elles pratiquent le culte des vaudous. Donc, les récits de leur migration relatent l'émergence de différents royaumes, dont celui du Dahomey, qui est bien connu, mais également d'autres royaumes, dont celui de Kétou, Ouida, Alada et Porto Novo, que je vais peut-être être amenée à citer au cours de cet exposé. Donc, cette région se situe au cœur de la zone appelée Savane du Bénin, car à partir du Cap des Trois Pointes au Ghana et jusqu'au Nigeria, le domaine de la forêt dense humide s'interrompt pour laisser la place à des formations de savanes, des mosaïques de forêt, des champs et tout un ensemble donc de transitions entre ces différents paysages. Elle apparaît donc comme une zone fortement anthropisée, ce qui n'est pas sans rapport avec l'ancienneté et la densité assez forte du peuplement. Donc les origines de cette savanisation peuvent s'expliquer par des facteurs climatiques. En effet, la pluviosité annuelle varie en général de 1500 à 2000 mm sur la côte du golfe de Guinée, mais elle n'est que de 890 mm à Lomé, au Togo. Il est établi que l'Afrique, en plus, il est établi que l'Afrique a connu au cours du Quaternaire une alternance de périodes arides et humides, au cours desquelles cette forêt dense humide a reculé ou avancé. Alors, c'est ainsi que le massif forestier guinéo-congolais, ici représenté en vert, s'est scindé en deux domaines distincts, permettant à des formations de savane d'atteindre la côte. Donc, les formations forestières se sont réduites dans des zones de refuge, le long des cours d'eau, autour des sources et des montagnes, et dans les montagnes. Donc, actuellement, les conditions climatiques favorisent la progression de la forêt, comme l'attestent les travaux de chercheurs en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Mais elle est cependant bloquée par les activités humaines. Donc, quasiment tous les îlots de forêt dans cette zone sont des lieux de culte, des sanctuaires boisés, et aujourd'hui, la pression qui est exercée sur ces derniers lambeaux forestiers justifie l'intérêt que leur porte la communauté scientifique qui les considère comme des pôles de conservation de la biodiversité. Donc, dans la zone où je travaille, toutes les composantes du territoire sont perçues et gérées en fonction de principes religieux qui influencent tous les usages, qu'ils soient individuels ou collectifs. Cependant, dans certains lieux, ces principes dominent sur tous les autres, en particulier sur l'agriculture et l'exploitation forestière. Ils sont en effet considérés comme des endroits privilégiés de communication avec le divin, et ils ont en commun d'être soustraits aux usages ordinaires. Donc, les espaces concernés sont souvent des sites dits naturels, donc des sources, mais aussi des chaos rocheux ou bien des termitières. Et il peut s'agir de différents éléments de la biodiversité, notamment des arbres et des herbes, des buissons, des bosquets, des forêts, plantées ou spontanées. Donc, est considérée comme bois sacré toute formation végétale, plus ou moins étendue, allant du simple buisson épineux, comme vous pouvez voir ici, à des formations plus importantes, où résident une ou plusieurs divinités, qui sont donc appelées vaudous, et qui font donc l'objet d'interdits visant à leur protection, ainsi qu'à celle des vaudous qui y résident. Donc, l'expression « forêt sacrée » ou « bois sacré » utilisée pour désigner ces sites n'est pas forcément la mieux appropriée. En effet, la végétation que l'on trouve dans ces îlots, leur superficie est en général très restreinte, allant des plus petits îlots de 1 hectare au plus grand qui arrive à une cinquantaine d'hectares. Mais aussi, cette expression n'est pas forcément bien appropriée, car elle ne correspond pas forcément aux dénominations locales et aux catégories locales de classification. Donc, forêt est le terme qui est souvent employé dans le français local, pour désigner ces formations qui sont très souvent très différentes les unes des autres du point de vue de leur physionomie, de leur composition floristique et aussi en fonction de leurs usages sociaux et symboliques. Donc, derrière cette expression réductrice se cachent des systèmes symboliques complexes et il est finalement préférable de proposer des traductions littérales ou étymologique des termes et expressions employés dans les langues vernaculaires pour les désigner. Donc le terme de forêt ou même de bois, d'ailleurs, ne correspond pas du tout à la classification de la végétation qui a été établie en Yangambi en 1956 sur une base physionomique. Donc bois sacré est la traduction, dans la région où je travaille, de l'expression vaudouzoum, en langue fon, qui est la principale langue parlée dans le sud du Bénin, et qui signifie forêt, bois de vaudou, le lieu prenant souvent le nom de la divinité qui y réside. Donc, dans le cadre d'un projet financé par l'Institut français sur la biodiversité, sur les sites sacrés et la conservation de la biodiversité, les membres de l'équipe ont réfléchi à la définition et à la catégorisation de ces sites. C'est pourquoi je retiens l'expression de sanctuaire boisé émise par Danuta Libersky-Baniou et ses co-auteurs dans leur contribution à l'ouvrage sur les forêts sacrées que j'ai dirigé en 2010 et qui a été publié aux éditions Cartala, à l'issue donc de ce projet. Je vous renvoie donc à cet ouvrage pour des informations détaillées sur ces sites et aussi pour les approches anthropologiques très fines qui y sont menées. Je cite notamment Stéphane Dugast qui propose une classification de ces sites basée sur la gradation des prescriptions rituelles qui vont de simples lieux redoutés aux lieux totalement exceptés des usages ordinaires. Donc ces forêts sacrées ou sanctuaires boisés sont souvent considérées comme des lieux naturels, conservés à des fins religieuses et donc préservés de l'action des hommes. En réalité, leur anthropisation est souvent très importante, car ces lieux sont fréquentés, entretenus, aménagés à des degrés divers. En effet, des clairières sont aménagées pour les cérémonies, des bâtiments peuvent être construits pour accueillir les adeptes, notamment au moment des initiations, des sentiers facilitent leur accès, et leur périphérie est souvent délimitée par un sentier pare-feu qui est redéfini chaque année, en principe, pour les protéger des feux de brousse. Donc ce sont des espaces également habités, contrôlés, réservés aux adeptes et aux initiés des divinités abritées en ces lieux, et où seuls les vaudounans, qui sont les prêtres, qui peuvent aussi aller y chercher des plantes liturgiques et médicinales dont ils ont besoin. Donc de nombreuses plantes présentes dans ces forêts sont en relation avec l'occupation humaine. Donc certaines espèces végétales sont plantées, comme celle-ci que vous pouvez voir, qui est un Dracaena arborea et que l'on trouve communément sur tous les lieux de culte, qu'ils soient dans des sanctuaires boisés, à l'entrée de ces sanctuaires, mais aussi dans les villages, signale la présence d'un lieu de culte. Ce sont donc de véritables marqueurs territoriaux qui contribuent à codifier l'espace social. Alors, dans ces sanctuaires, on trouve également des arbres fruitiers locaux et des palmiers, car beaucoup de plantes sont aussi amenées involontairement, soit par les hommes, mais également par les oiseaux, qui contribuent donc à l'anthropisation donc, de ces espaces. Donc, ces îlots forestiers encore présents dans la région sont pourtant souvent considérés comme des reliques d'une végétation forestière originelle, aujourd'hui disparue, et nous verrons que ce n'est pas toujours le cas. Donc, ces îlots forestiers sont donc généralement des lieux de culte qui sont aussi souvent en relation avec l'histoire du peuplement, l'occupation des terres et l'organisation des territoriales qui en découlent. Alors, ces caractéristiques ne sont pas propres au culte vaudou et se retrouvent dans d'autres aires culturelles, par exemple chez les Kassena du Burkina Faso, où Danuta Libersky-Baniou a montré la relation entre le religieux et la construction du territoire à travers la création des lieux de culte dans des formations boisées dénommées « peaux de la terre ». Donc ces lieux se distinguent aussi par les divinités qui y résident ou les circonstances de leur fondation. Donc certains sont des lieux de réunion de sociétés secrètes qui ont pour principale fonction d'assurer le maintien de l'ordre et la cohésion sociale. D'autres abritent des couvents d'initiation, celles-ci pouvant durer plusieurs mois à plusieurs années, selon les vaudous. D'autres encore sont liés à la fondation des établissements humains ou à l'instauration des royautés. Et certaines cérémonies particulières s'y déroulent, notamment au moment de l'intronisation des dignitaires, ou alors au moment de leurs funérailles. Donc tous les bois sacrés n'abritent pas non plus des divinités. Certains sont des cimetières pour de hauts dignitaires qui peuvent y avoir été inhumés, mais aussi notamment lors d'épidémies de variole. Et aussi, on trouve des cimetières pour des enfants qui sont morts en bas âge notamment les enfants atteints de drépanocytose. Et ces forêts portent un nom spécial en lien avec ceux qui y sont enterrés. Donc certains sont aussi le siège d'un culte aux ancêtres, ou bien représentent un haut lieu historique et qui est respecté pour cela. Donc ces sanctuaires boisés apparaissent comme des espaces réservés à la communication avec le monde surnaturel, avec le monde des ancêtres, des lieux donc qui sont hors du commun, mis à l'écart de l'exploitation ordinaire. Ce sont des lieux considérés par les habitants comme des endroits sains, paisibles, frais, et qui s'opposent à l'espace environnant de la savane, qui est considéré comme chaud, l'espace des herbes parcourues par les feux de brousse, alors que ces sanctuaires boisés, constituent des remparts justement protecteurs contre les feux ou contre les ennemis, ce qui a été aussi observé en d'autres régions. Alors je renvoie notamment aux travaux de Stéphane Dugast au Nord Togo, mais aussi aux travaux de Chiara Alfieri au Burkina Faso, de Gilbert Gonin en Côte d'Ivoire et de Christian Seignobos au Cameroun. Donc ils s'inscrivent totalement dans l'espace social et sont donc étroitement associés au village. À l'époque, je voudrais signaler aussi le rôle de refuge qu'ils ont pu constitué, notamment à l'époque de la traite des esclaves. En effet, des captifs se sont réfugiés dans ces sanctuaires, échappant ainsi à la traite, mais tombant alors sous le contrôle de la divinité, comme nous le précise un voyageur du XVIIIe siècle, Paul Hermann Isert, qui a voyagé dans cette région. Donc cette fonction de refuge est également présente dans les récits de migration des populations fuyant leurs ennemis. Donc j'en arrive à ma deuxième partie où je vais vous parler de l'histoire des perceptions et de représentation de l'environnement et pour traiter donc de la question des formes du paysage, je vais me baser sur l'histoire des paysages de cette région que j'ai étudiée donc à travers un corpus de sources composé de sources écrites européennes et de sources orales. Donc recueillis auprès des habitants. Donc la côte du golfe de Guinée a été visitée à partir du XVe siècle par de nombreux voyageurs qui ont résidé plus ou moins longtemps dans les principaux comptoirs commerciaux européens des différentes nations européennes. Donc les récits de leurs voyages renseignent sur les perceptions que les Européens ont eues de ces paysages. Alors évidemment, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, mais cette perception reste très proche de ce que l'on peut encore observer aujourd'hui. En effet, les paysages décrits sont très humanisés et l'élément forestier n'apparaît que sous forme de bois et de bosquets isolés à proximité des villages, protégés par des interdits. Donc ces récits permettent également de montrer l'évolution des paysages dans le temps en fonction des enjeux économiques. Donc les premières vraies descriptions de paysages datent de la fin du XVIIe siècle et font état de prairies remarquables, prairies admirables, campagnes ravissantes, de champs cultivés, de plaines agréables, de pâturages, avec des bois de distance en distance, quelques bouquets d'arbres. Donc les paysages sont ouverts et il y a quelques bouquets d'arbres et des arbres dispersés. Donc peu de voyageurs se sont rendus dans l'intérieur des terres avant le XIXe siècle et le trajet parcouru est donc peu décrit. Donc la première citation de forêt date de 1790, et c'est une forêt grande, redoutable, dangereuse, peuplée de bêtes féroces, et qui est localisée, mais qui est localisée dans une zone de dépression argileuse bien particulière, comme le montre donc cette carte du XVIIIe siècle du voyageur Robert Norris, qui séjourna à Abomey, la capitale du Dahomey, et qui donc localise cette forêt dans une région bien précise, alors que tout le reste, donc ça fait à peu près 150 km de la côte jusqu'à Abomey, et donc cette zone de forêt fait à peu près une vingtaine de kilomètres de traversée. Dans ces paysages ouverts, les Européens n'ont pas manqué d'observer et de décrire certains traits dominants des paysages. Donc, je vais vous lire un extrait du récit de William Bosman, dans lequel il écrit « Il n'y a point de village qui n'ait un petit bois sacré où les principaux vont faire leur sacrifice, soit pour le commun, soit pour eux en particulier. Ils tiennent ces bois pour sacrés et il y a des défenses très expresses de les polluer ou de les endommager en coupant quelques branches d'arbres. Outre la peine attachée à cette défense, ceux qui la violent attirent sur eux une malédiction universelle. Donc on retrouve ici les caractéristiques de base d'un sanctuaire boisé. Et donc il semble bien établi qu'à l'arrivée des Européens sur la côte des esclaves, relativement peu de temps après l'installation des migrants Adja et Évée, ces bois situés près des villages occupaient déjà des espaces limités et représentaient donc des traits saillants des paysages, comme on peut le voir encore aujourd'hui. Et pour vous le montrer, donc, voici un de ces îlots qui fait à peu près 2 hectares, que vous voyez donc au milieu d'un champ. Un deuxième un peu plus important, donc dans le sud du Togo. Et en voici un beaucoup plus réduit, qui ne comprend que 3-4 arbres, au milieu d'un champ cultivé avec en arrière-plan la palmeraie. Et au premier plan, vous voyez de jeunes palmiers. Mais qu'en est-il des perceptions locales de ces paysages ? Alors, je me suis bien sûr tout d'abord heurtée à la difficulté de la traduction de la notion. Qu'est-ce qu'un paysage pour les habitants et comment la traduire ? Est-il possible, et ça bien sûr, ça s'est révélé impossible, comment peut-on, dans de telles conditions, se faire une idée des paysages et de l'environnement de ces populations, notamment avant la colonisation ? Alors, ce qui était ma préoccupation au début de mes recherches. Alors, au cours de mes enquêtes, j'ai obtenu 3 catégories d'informations. Donc, les références systématiques à la forêt dans les récits de migration, les toponymes et l'installation des divinités en des lieux particuliers du territoire. Donc, les récits de migration et de fondation de nouveaux villages comportent souvent des références à l'environnement. Au cours de mes enquêtes au Togo, comme au Bénin, les informateurs ont affirmé que la forêt était présente partout à l'arrivée de leurs ancêtres. Donc ces récits, dont les chasseurs sont les principaux héros, ont généralement pour cadre une zone inhabitée, donc non cultivée, riche en ligneux, qui est généralement traduite par forêt en français. Mais cette forêt omniprésente, vierge, inhabitée, lieu de refuge des hommes poursuivis et des animaux chassés, n'appartient-elle pas au domaine du mythe ? La diversité de la végétation, bien sûr, en fonction des sols et du réseau hydrographique, n'a pas été mémorisée. Mais aujourd'hui, cette forêt n'existe pas. Et l'analyse critique des sources montre qu'elle n'existait pas non plus à l'arrivée des différentes populations venues s'installer dans la région. Donc le terme vernaculaire, traduit donc en français par forêt, ne signifie pas nécessairement qu'il s'agissait d'une végétation forestière au sens phytogéographique. En effet, se rencontrent plusieurs termes, notamment les termes ave, zunkan, béran. Et ce dernier terme est composé du mot herbe, gbe, et se réfère donc à une végétation plus herbeuse ou broussailleuse, dont la traduction me paraît être plutôt brousse ou même savane. Il est en effet question plutôt d'une végétation dense, non anthropisée, qui peut aussi se traduire par brousse, ce que d'ailleurs des observateurs étrangers ont fait au XIXe siècle. Donc ils citent le terme « zun » et le traduisent par « bush » en anglais. Il s'agissait de voyageurs anglais. Donc ces récits reflètent une certaine vision du monde. Ils offrent une représentation imaginée et idéalisée de l'environnement, de l'espace et du territoire parcouru, donc basée sur l'imaginaire de la forêt, qui apparaît donc plutôt comme un paysage mythique. Donc, comment expliquer cette référence systématique à la forêt ? Donc, les hommes aujourd'hui font référence à cette forêt vierge idéale, non seulement par tout ce qu'elle représente de bénéfique pour l'homme, en effet, pour eux, elle favorise la pluie, elle constitue une réserve de chasse et de terre à défricher, mais aussi parce que cette vaste forêt, luxuriante et hostile, semble être un indicateur dans les traditions de l'antériorité de leur installation. Alors, je m'appuie aussi sur Alain Mignot, qui a fait une analyse du droit foncier chez les Guins du sud-est du Togo, et qui suppose que la tradition s'appuie sur la présence d'une vaste forêt recouvrant la région où Donc ces populations se sont installées afin de démontrer que celles-ci étaient inexploitées au moment de leur installation et donc par conséquent inhabitées. Donc selon lui, c'est la mise en valeur de la terre qui est la condition juridique de l'occupation. Donc on retrouve cette idée également chez Georges Dupré, qui a fait une étude un peu similaire au Burkina Faso et pour qui les figures emblématiques du fourré, des arbres et même des jardins venaient légitimer donc des droits fonciers ou politiques. Donc au Togo comme au Bénin, les premiers arrivés ont été les premiers à défricher et cet argument sert de justification pour affirmer donc le droit sur la terre. Le défrichement de la végétation, mais quelle végétation ? Plus que la référence à l'existence de la forêt, implique l'antériorité de l'occupation. Donc les premiers à défricher étaient aussi les premiers à planter, et seuls les descendants des premiers arrivés ont le droit de planter ou de couper des arbres et d'en cueillir les fruits, qui est donc un héritage du droit de défricher des premiers occupants. Donc ce contrôle des ressources ligneuses contribue à l'aménagement de l'espace et des paysages. Donc cette notion de premier occupant s'avère fondamentale pour comprendre la représentation de l'environnement et des paysages véhiculés par les langues vernaculaires et dont les traductions peuvent biaiser l'interprétation qui peut en être faite. Les toponymes donc représentent aussi une autre source d'information sur les perceptions locales des paysages, les noms de lieux se référant souvent à des espèces végétales précises. Alors, ils apportent ainsi des éléments d'information a priori plus objectifs sur la nature de la végétation existant à l'arrivée des migrants. Donc, ces toponymes, transmis oralement de génération en génération, génèrent un récit sur l'origine de leur formation qui comporte parfois des descriptions de paysages. Alors, ils offrent ainsi aux historiens une perception localisée de l'environnement qui reflète à la fois l'espace vécu par les habitants et les paysages. En effet, nombre de toponymes font référence à la végétation, soit parce qu'ils sont composés à partir de noms d'espèces végétales, comme le baobab ou l'iroquois, pour citer les espèces les plus courantes, soit parce qu'ils se réfèrent à l'existence ou à la proximité d'une formation végétale, comme une forêt, une palmeraie, ou bien une formation marécageuse ou herbeuse. Donc les hommes, à leur arrivée, ont très souvent nommé leur nouvel environnement en fonction de la présence sur le lieu choisi de certaines espèces ou des formations végétales jugées remarquables. On peut donc considérer ces espèces comme des témoins ou des indices pouvant donner une idée des paysages existants au moment de l'arrivée des populations dans la région et identifiés comme tels par les hommes. Alors, je vous ai donné quelques exemples de toponymes. Alors, notamment, pour aller rapidement, par exemple, ce toponyme, Agonkanmé, signifie « dans une étendue de rogniers » et donne donc une idée des paysages qui étaient présents à ce moment-là. Le rognier servant d'ailleurs à caractériser un faciès de savane. Adidomé signifie dans la savane, dans une région couverte de baobab. Et j'ai traduit donc décamé, qui signifie dans une étendue couverte de palmiers, par palmeraie. Alors, les espèces végétales les plus employées donc, par les toponymes sont en fait des espèces qui sont caractéristiques des savanes guinéennes et soudaniennes que l'on trouve donc dans cette région, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Seules deux espèces appartiennent au domaine de la forêt dense, il s'agit de l'iroquois et du fromager, et ce sont justement ces espèces que l'on considère souvent qui ont un statut particulier, comme nous allons le voir, et qui sont relativement peu fréquents dans les paysages. Alors, ces toponymes reflètent donc la perception de l'environnement et des paysages qu'en ont eu les hommes à leur arrivée. Mais ils ne sont plus systématiquement représentatifs, bien sûr, des paysages d'aujourd'hui. En effet, là, je vous montre donc cet exemple d'un parc anéré qui a pu laisser place à la palmeraie lors du développement de la culture de ce palmier, particulièrement à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en lien avec l'essor du commerce de l'huile de palme vers l'Europe. Mais on a également, et puis aujourd'hui, ces palmeraies d'ailleurs peuvent être supplantées par des champs de maïs. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans ce genre de détails, malheureusement, mais c'est l'évolution des paysages. Les toponymes permettent aussi de prendre conscience du côté éphémère, mobile des paysages que l'on a tendance à imaginer comme immuables. Les toponymes donnent à voir ou interpréter les paysages vus par les migrants et non pas les paysages tels que l'on peut les voir aujourd'hui. Par contre, ils permettent de voir aussi les évolutions qui ont pu se faire, notamment en fonction des intérêts économiques. Donc, cependant, certains toponymes, comprenant notamment le suffixe « zun », qui peut être traduit par « brousse » ou « forêt », donc désigne les sanctuaires boisés situés au voisinage des localités. Et ici, donc, voici la forêt d'Avokanzun. Et si on décompose le nom de la forêt, on a le nom de la plante coton qui intervient donc dans le récit de la fondation de ce site et qui a donné son nom à la divinité qui est installée au sein de cette formation végétale. Donc, contrairement au toponyme précédent, cette catégorie montre une plus grande stabilité dans le temps en raison justement du statut particulier de ces sanctuaires boisés. Donc, si les paysages ont pu évoluer en fonction des intérêts économiques, les toponymes désignant les sanctuaires boisés montrent qu'ils représentent justement des éléments structurants des paysages qui sont relativement constants. Pour preuve, les habitants se souviennent de leur emplacement quand ils ont été défrichés, même si ce défrichement a pu intervenir il y a quelques dizaines d'années, et peuvent aussi vous en montrer les limites. Donc, ces sanctuaires boisés sont bien des marqueurs des paysages, ce que d'ailleurs d'autres auteurs, d'autres chercheurs ont observé dans les régions où ils travaillent, notamment Gilbert Gonin en Côte d'Ivoire, Danuta Liberski, que j'ai déjà cité, et Mathilde Lenné dans l'ouvrage sur les forêts sacrées que j'ai cité au début de mon exposé. Donc, enfin, ces toponymes sont bien évidemment interprétés comme des témoins de l'existence de la forêt dans cette région, et donc que ces bois sont des reliques de cette ancienne couverture forestière aujourd'hui disparue. Donc, nous allons voir maintenant que cette interprétation n'est qu'en partie vraie, car ces forêts de Vaudoune peuvent être le résultat d'une construction. Et donc j'en arrive à ma troisième partie, où je vais donc vous présenter ces processus. Alors les informations que j'ai pu recueillir sur l'origine de leur sacralité m'ont amené à distinguer deux catégories de formations boisées, sanctuarisées ou sacralisées. Les formations boisées qui existaient avant la découverte ou l'installation d'une divinité, et qui peuvent être donc considérées comme des reliques, et les formations boisées qui sont le résultat de l'intervention des hommes, car en effet, contrairement à ce que l'on pense habituellement, les hommes peuvent être à l'origine d'un boisement. Donc ce phénomène continue d'ailleurs à s'observer aujourd'hui, malgré l'intensification des défrichements culturaux. Donc, je vais vous présenter différents exemples pour illustrer ces processus de construction de sanctuaires boisés. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de l'installation des divinités. En effet, les hommes emportaient au cours de leurs déplacements la représentation de leurs divinités et de leurs ancêtres mythiques, qu'on appelle dans cette région le Torhyo. Et toute fondation était suivie de leur installation qui représentait un acte symbolique et rituel ancré dans le sol et dans l'espace, donc par la création de nouveaux lieux de culte. Donc, le premier occupant d'un lieu nouait un pacte avec la terre après avoir fait une consultation par la divination. Donc, ce pacte était souvent matérialisé par la plantation d'une bouture d'un arbre. Et si celui-ci prenait racine, c'était un gage de réussite et de prospérité pour la nouvelle communauté. Donc le lieu de ce pacte devenait un lieu de culte, rappelant aux habitants les circonstances de la fondation. Donc ces pactes entre la terre, les ancêtres, les entités surnaturelles, les déjà-là et les nouveaux venus, garantissaient l'harmonie des relations des hommes à leur environnement et conditionnaient le résultat des récoltes, les bonnes conditions météorologiques et la santé. Et donc ce pacte devait être renouvelé régulièrement chaque année. Donc si l'accord des divinités telluriques était obtenu, alors les nouveaux occupants pouvaient installer leur propre vaudou. Donc les migrations ne sont pas les seuls événements qui conduisaient à l'installation de divinités et à la création de lieux de culte. Les conquêtes militaires et guerrières ont amené les hommes également à déployer des stratégies pour maîtriser l'espace et les habitants par le biais d'installations de leurs propres vaudous, mais aussi par l'emprunt des vaudous des populations conquises. Et également en nouant des alliances matrimoniales, toutes ces stratégies ont favorisé les déplacements des divinités et donc la création de lieux de culte. Donc ces installations de divinités se faisaient soit à proximité de certains arbres, donc généralement des iroquois ou des fromagers, mais aussi des baobabs, et s'accompagnaient donc de la plantation de ces arbres, qui se trouvaient alors protégés par des interdits religieux. Donc certains sites ont pu devenir ainsi des bosquets ou des bois sacrés. En effet, les habitants de cette région ont donc pour habitude de planter des arbres à certaines occasions, quand un événement important survient dans la vie d'une communauté villageoise. Donc certains arbres sont plantés pour exprimer un souhait sur l'avenir de la communauté ou s'assurer du caractère divin d'un phénomène, comme la transformation d'un homme en vaudou, ou bien attester la présence de tel ou tel vaudou. Donc si la bouture croît, cela signifie donc que les puissances surnaturelles sont avec celui ou ceux qui l'ont planté, et ce lieu peut devenir un lieu de commémoration où les descendants organisent donc des cérémonies. Alors toutes les plantations dont on m'a parlé concernaient soit l'installation d'un vaudou, et plus précisément d'un torio, donc d'un ancêtre mythique, où ces plantations pouvaient concerner aussi la volonté de symboliser un événement dont le souvenir se perpétuera jusqu'aux générations actuelles. Et dernier cas de plantation, c'est également la dernière étape des rites de naissance d'un enfant pour lequel, bien souvent, un palmier devait être planté sur le cordon ombilical, le palmier étant considéré comme une richesse dans le sud du Bénin. Donc ces lieux sont des produits de l'histoire des communautés humaines, des géosymboles, pour reprendre l'expression de Joël Bonnemaison, donc des marqueurs symboliques des paysages que les habitants savent interpréter et qui restent par contre incompréhensibles aux observateurs étrangers, qui n'en ont pas la même lecture, ne possédant pas donc les clés d'interprétation. Donc la lecture du paysage est à la fois rituelle, mémorielle et foncière. Donc je vous ai parlé de l'installation de divinités, je vais à présent vous parler de découverte de vaudou. Donc toute manifestation extraordinaire est interprétée comme étant surnaturelle et doit être soumise à l'interrogation donc du devin. Alors, il suffit d'un signe, comme la proximité d'une termitière et d'un iroquois, ou la présence d'un serpent python dans une de ces termitières, pour consulter le devin et avoir la confirmation de la présence divine. Donc, tous les représentants de ces espèces végétales ne sont pas habités par des vaudous, mais sont susceptibles de l'être. Donc, ils bénéficient ainsi d'un statut particulier qui leur assure une certaine protection. Ce qui a fait dire au chevalier des Marchais, un voyageur du XVIIIe siècle, qui a voyagé dans cette région au début du XVIIIe siècle, que tout arbre est considéré comme une divinité tant ils sont rares. Donc à partir du moment où un lieu est reconnu comme sanctuaire d'une divinité, représenté ou non par un arbre, donc il est protégé par des interdits qui assurent la préservation et donc la pérennité du lieu. Donc on ne peut en principe abattre l'arbre où réside le vaudou et par extension tout ce qui l'entoure. Alors autour d'un ou même plusieurs arbres se met en place un lieu de culte donc, qui se reconnaît par la présence d'un certain nombre d'espèces végétales plantées à cet effet et qui peuvent aussi entrer d'ailleurs dans la composition des offrandes religieuses et ou qui interviennent aussi dans les rites, notamment le Dracaena arborea dont je vous ai montré une photo tout à l'heure. Donc autour de ces plantes arrivent spontanément d'autres espèces dont l'installation est donc favorisée par la mise en défend du lieu et le non-respect des prescriptions rituelles peut entraîner des risques de sécheresse ou de pluie trop abondante, voire des épidémies. Donc la sacralisation du lieu favorise la végétation et entraîne une conquête forestière. Donc le même processus peut s'observer à partir d'une zone de savane occupée majoritairement par des graminées sans qu'il soit fait mention d'un arbre à l'origine du peuplement végétal. Alors certains informateurs affirme que la création de la forêt résulte d'une mise en défend de la zone sacrée. Donc la sacralisation du lieu commémore un événement, comme la déification d'un homme, par exemple, qui se serait changé en pierre ou aurait subitement disparu, ce qui est le cas dans l'exemple de ce site. Ce sanctuaire boisé est le lieu où a disparu un guerrier Yoruba qui fuyait, donc qui avait réussi à s'échapper alors qu'il avait été fait prisonnier par l'armée dahoméenne. Et dans sa fuite, il s'arrêtait plusieurs fois. Et à chaque endroit, en fait, à chaque étape de sa fuite, un lieu de culte a été mis en place, car le dernier endroit est donc ce sanctuaire boisé et le lieu où il a disparu. Alors un arbre a été planté et lorsque cet arbre est mort, il a été conservé sur place et donc a priori cette formation boisée que vous voyez autour serait le résultat de la mise en défend de cette zone. Ici, c'est un lieu de culte qui est situé à plus de 200 km et qui est le résultat de la plantation d'un arbre au moment de l'installation d'une partie des habitants venus de la région précisément où le vaudou, où le soldat Yoruba a disparu, qui s'appelait Guédé. Ce lieu de culte et les gens qui habitaient cette région ont donc fui les exactions du roi du Dahomey et se sont réfugiés donc, à plus de 200 km. Et lors de leur installation, ils ont installé le vaudou Guédé. Et ils ont planté une bouture de cet arbre, qu'on appelle un hatin, je ne vous donne pas le nom scientifique, et qui est la même espèce que celle qui a été aussi plantée sur le premier site situé dans un sanctuaire boisé. Donc la sacralisation a eu pour conséquence donc, la protection de cet espace qui a permis donc, la conquête forestière. Donc c'est ce que relatent donc les informateurs à propos de ce vaudou Guédé. Donc le site s'appelle Guédézoun, du nom justement de cet homme qui s'est donc transformé en vaudou. Alors il n'est cependant bien sûr pas possible d'affirmer que ces sanctuaires boisés sont de réelles créations des hommes. Mais les informateurs rencontrés ont cependant insisté sur cet aspect. Donc, généralement, les vaudous sont découverts soit dans une forêt préexistante à leur apparition, soit dans un champ où ils résident dans certains arbres ou des termitières identifiées, comme je l'ai dit, par la divination. Donc tous les arbres abritant un vaudou ne donnent pas nécessairement naissance à un bosquet ou un bois sacré. Et on voit bien là, justement, le cas, puisque à droite, on a donc un sanctuaire boisé et à gauche, on a simplement un lieu de culte marqué par cette espèce végétale. Alors, cependant, un autre exemple est la transformation de certains bois sacrés et la transformation de lieux habités en des formations végétales. En effet, lorsqu'un site est abandonné et protégé, la végétation, pour des raisons religieuses, la végétation peut occuper l'espace assez rapidement, surtout dans un contexte tropical humide. Donc, à Togudo, qui est donc la capitale historique du royaume d'Alada, on peut observer un certain nombre de sanctuaires boisés qui ont tous un nom significatif au regard de leur histoire. Et les informations obtenues certifient que la plupart donc, sont des créations. Alors, je cite comme exemple la forêt de Gogan, Gogan-Zoun, que vous voyez donc ici. Donc, Gogan était un des principaux dignitaires du royaume, chargé de l'intronisation du roi d'Alada. Et le site a été abandonné donc, au moment de la conquête du royaume par les guerriers dahoméens, en 1724 précisément, date que nous avons grâce au récit des voyageurs. Alors, cette forêt aujourd'hui fait donc référence à un événement majeur donc, dans l'histoire de ce royaume, au XVIIIe siècle, qui a provoqué donc, un changement dynastique et l'abandon des différents sites habités. Alors, cependant, les esprits des ancêtres défunts continuent à y être honorés et l'interdit de cultiver ces anciens sites d'habitat, qui sont donc respectés, a permis à la végétation de se développer. Alors, je pourrais ainsi multiplier les exemples. Pour terminer ce point-là, je dirais simplement que des fouilles n'ont pas pu être réalisées pour le moment dans ces sanctuaires boisés, preuve qu'ils sont encore bien protégés. Mais au Ghana, qui n'est pas si loin, l'archéologue Gérard Chouin a pu démontrer que des sanctuaires boisés étaient d'anciens sites d'habitat. Et de même au Kenya, qui est bien, bien plus loin, mais les sites des Kaya, dans la zone littorale, sont d'anciens villages situés au sommet de collines, qui sont donc aujourd'hui boisés et considérés comme sacrés, en lien avec un culte aux ancêtres. Alors, par contre, d'autres lieux ne sont respectés que parce qu'un culte continue à être rendu donc, aux mânes des ancêtres, car il y a eu déplacement de l'habitat. Alors, c'est le cas de ces sanctuaires boisés de Togudo, mais ils ont quand même un caractère historique qui font qu'ils ont une importance en plus aujourd'hui renouvelée, car après, au moment de la colonisation, le roi d'Alada a été, le royaume d'Alada a été réinstauré par le gouvernement colonial. Donc les sites ont été à nouveau réinvestis et les habitants s'appuient sur ces sites pour retracer l'histoire du royaume, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les lieux qui sont respectés parce que l'habitat a été déplacé, mais un culte aux ancêtres continue à être conservé sur le site de l'ancien habitat. Alors, par exemple, en allant dans un village, alors malheureusement, je n'ai pas de photo, qui est situé au bord du lac Nokwe, dans le sud du Bénin. Alors, j'ai vu au loin un groupe d'arbres et au milieu donc de cette prairie marécageuse, en bord du lac Nokwe. Et la présence de ce lac tranchait tellement dans le paysage, un peu comme le bosquet que je vous ai montré dans cette campagne cultivée du sud Togo. Donc j'ai commencé à poser des questions sur ce bois qui tranchait tellement dans le paysage et on m'a répondu qu'il s'agissait de l'ancien site du village, aujourd'hui lacustre de Ganvier, qui a été abandonné parce que les gens ont fui les exactions du roi du Dahomey et ils se sont donc installés sur un village construit sur pilotis sur le lac. Donc ces informations vont donc dans le même sens que celles de Togudo. Les lieux abandonnés mais respectés et interdits aux défrichements culturaux sont conquis par la végétation, où rapidement donc, de grands arbres se sont développés. Alors, ces sites ne sont pas véritablement considérés comme des forêts de Vaudoun, mais ils sont néanmoins respectés. Donc, dans ces derniers exemples, à l'exception des plantes indicatrices de lieux de culte, il n'y a pas de plantation d'ordre rituel, comme la plantation d'un iroko ou d'une autre espèce de ce genre. La conquête forestière est donc un processus qui peut être qualifié de naturel ou plutôt de spontané, car les hommes y contribuent quand même inconsciemment en fréquentant donc ces lieux pour des raisons rituelles et en y abandonnant en fait involontairement des fruits, ce qui explique notamment la présence de palmiers et de baobabs, le baobab étant vraiment une espèce de savane et que l'on trouve fréquemment dans ces formations boisées. Donc la conquête forestière s'observe effectivement car les conditions climatiques, comme je vous l'ai dit au début, sont actuellement favorables à la reforestation. Donc cette dynamique forestière de la végétation en zone de savane est d'ailleurs attestée par les expériences qui ont été réalisées en Côte d'Ivoire, dans le Vébaoulé, à Lamto, et qui a montré que si on laisse une parcelle préservée de toute culture, elle est rapidement conquise par une végétation de type forestier. Alors, la situation est comparable entre le Vébaoulé, donc en Côte d'Ivoire, et la zone de la savane du Bénin, puisque là, on est dans une situation écologique tout à fait, des conditions écologiques tout à fait comparables. Alors, on peut, pour vous montrer que cette hypothèse est, comment dire, peut-être considérée comme valable, c'est qu'on peut observer ce phénomène de substitution d'un site habité par une formation végétale arborée quand une maison construite en terre est abandonnée, ce qui est le cas sur la photo que vous pouvez voir ici. Donc après l'effondrement de la toiture, les murs encore en place empêchent de toute façon une mise en culture immédiate et des plantes commencent à pousser à l'intérieur de l'édifice. Donc lorsque l'érosion a fini son travail et qu'il ne reste plus de traces de la construction originelle, seule la végétation demeure. Donc cependant, si des divinités peuvent investir certains lieux, elles peuvent aussi les quitter. Et cet abandon peut être spontané ou décidé en cas de nécessité, bien sûr par les responsables qui sont en charge de ces lieux de culte et qui donc transfèrent la divinité dans un autre lieu. Alors la diapositive que je vous montre ici est un cas exemplaire. C'est un cas relativement récent puisqu'il s'agit... on est dans le contexte du régime marxiste qui a été mis en place au cours des années 70 au Bénin. Et le gouvernement de l'époque a lutté fortement contre les pratiques religieuses traditionnelles, jugées comme étant obscurantistes. Et donc un grand nombre d'arbres a été abattu. Et contre la volonté, souvent les habitants qui n'étaient pas d'accord, et notamment les responsables religieux, bien sûr, en première loge, quand ils n'étaient pas d'accord, ne pouvaient souvent rien faire. Les agents de l'administration venant avec des tronçonneuses. Et donc, vous voyez ici la souche donc, d'un arbre. Donc, le lieu est demeuré. Mais l'arbre a été abattu et donc la divinité est restée sur place. Mais on est passé donc d'un arbre à un autel construit. Donc cette diapo est venue un peu trop tôt parce que moi je voulais d'abord vous parler des transferts qui peuvent se faire aussi et qui se sont produits de tout temps en fait. Ne serait-ce que par l'installation d'une divinité quand une population migrait, il y avait en quelque sorte un transfert de lieu. Mais dans certains cas, il y a un véritable transfert, c'est-à-dire que la divinité bouge de place après un, comment dire, une cérémonie qui est faite pour cela. Donc c'est ainsi qu'à Porto Novo, en 1860, quand les missionnaires chrétiens se sont installés, les adeptes du vaudou Shango, gênés par la proximité des missionnaires, ont déplacé leur couvent dans un autre lieu. Donc aujourd'hui, ces déplacements se poursuivent d'ailleurs, notamment quand il est question de construire une route ou un dispensaire ou souvent des bâtiments publics, on assiste à des transferts de divinités en d'autres lieux. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, donc ces mutations, compte tenu des mutations sociales en cours, ceci n'est pas un processus récent et il est propre aussi au dynamisme de la religion vaudou elle-même. Alors, donc c'est ainsi qu'au Bénin, comme au Togo, l'abattage des grands iroquois est devenu très courant parce que c'est une essence rare et qui a une forte valeur commerciale. Et donc, pour abattre ces arbres, il suffit aux exploitants forestiers de se concilier les vaudous qui y résident par des offrandes propitiatoires dans le cas où l'arbre sélectionné serait donc la résidence d'un vaudou ou d'un mauvais esprit. Parce que cette dernière présence peut même servir de prétexte à l'abattage, la sorcellerie aujourd'hui servant de seule explication au mal. Donc la perception démoniaque des cultes vaudous, les reléguant dans le domaine de la sorcellerie, est le résultat des discours des Européens depuis leur arrivée sur la côte, et principalement des missionnaires chrétiens, dont les idées ont ensuite été relayées par les colonisateurs et les membres, plus récemment, des églises évangéliques et aussi sous le régime marxiste au cours des années 70, dont je vous ai fait une présentation rapide. Alors, de plus, cette région à forte densité humaine a vu tout au long du XXe siècle s'accroître, bien sûr, les défrichements culturaux, encouragés par le gouvernement colonial aux dépens des massifs forestiers et donc aussi des forêts de vaudoune, avec l'appui des missionnaires chrétiens. Ceux-ci ont d'ailleurs montré dès leur arrivée que rien ne leur arrivait quand ils osaient profaner ces lieux, ce qui a contribué quand même à déstabiliser ces cultes vaudous. En effet, nombre de missions catholiques ou protestantes ont occupé l'emplacement de sanctuaires boisés ou se sont installés à leur proximité immédiate. Et donc la situation s'est encore aggravée sous le régime de Mathieu Kérékou, qui a lutté donc contre ces pratiques. Donc, la situation actuelle au Bénin est à nouveau favorable à la conservation de ces formations végétales, et c'est lié quand même au travail des scientifiques qui ont réussi à convaincre les autorités politiques, et cela avant le changement de 1990 et de la transition démocratique, les scientifiques ont réussi à convaincre les autorités politiques de l'importance de leur conservation et de leur protection. Et d'ailleurs, devant les difficultés économiques et la dégradation de l'environnement, certains habitants n'ont pas attendu le changement politique dont je vais vous parler tout à l'heure, de 1990, pour réinvestir ces lieux. Et notamment, vous pouvez voir ici la photo d'une forêt, d'un sanctuaire. Vous voyez forêt, le terme forêt pour cette formation qui n'est pas très haute n'est pas forcément le meilleur terme à employer. Donc c'est pour cela que le sanctuaire boisé est bien plus est bien meilleur. Donc on observe ce bosquet date d'une vingtaine d'années. Il avait été détruit, l'ancien site avait été détruit sous le régime de Mathieu Kérékou, et donc vers 1980, non, il y a 25, je ne sais plus compter, donc il a été, la divinité a été à nouveau installée vers 1985, Et cette photo date de 2004. Donc, voilà pourquoi j'ai dit qu'il avait une vingtaine d'années. Donc, des lieux de culte sont réaménagés et les arbres morts ou abattus sont remplacés. Donc, il y a un mouvement de restauration des sanctuaires boisés qui s'observe différemment selon les régions et qui effectivement est en lien avec les directeurs des ressources naturelles qui sont en place dans les régions. Et ici, donc, vous voyez donc ce sanctuaire boisé et au premier plan, ce sont donc des espèces végétales qui ont été plantées pour agrandir en fait le périmètre de ce sanctuaire boisé à la demande de cette grande prêtresse qui est d'ailleurs intervenue auprès, c'est elle qui a demandé auprès de la direction des ressources naturelles dont dépendait son village que soit restaurée sa forêt par la plantation et elle a indiqué les espèces qu'elle voulait voir planter. Elle ne voulait pas d'espèces utiles, qui sont des espèces qui sont parfois couramment utilisées pour le reboisement. Elle voulait vraiment des espèces que l'on trouve habituellement dans ces sanctuaires boisés. Mais en parallèle, malheureusement, les abattages et les défrichements se poursuivent quand même, comme j'ai pu le constater, et je vous présente quelques situations parfois irréversibles, comme vous pouvez le voir, alors là je suis passée juste au bon moment. Donc ce sanctuaire boisé qui devait faire 2 hectares, voilà, il ne reste plus que 2 arbres. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire de ce défrichement. Et donc là, vous voyez le grignotage de la périphérie du sanctuaire qui est donc situé à droite, que l'on ne voit pas, mais donc le grignotage de ce sanctuaire. Et ici, là, il y a eu une plantation d'eucalyptus qui a été faite à l'intérieur du sanctuaire boisé et on peut voir l'exploitation du bois qui continue à être faite. Et là, on a l'installation d'une meule à charbon à la périphérie, à partir du bois qui a été prélevé à l'intérieur de la forêt. Voilà, j'en arrive à ma dernière partie où je vais vous parler de ces sanctuaires boisés qui sont maintenant considérés comme des paysages culturels emblématiques. Comment en est-on arrivé là ? Donc, depuis les années 80, les sanctuaires boisés sont devenus des objets d'étude pour les botanistes et écologues, pour qui ils représentent donc des conservatoires de la biodiversité. Donc, parallèlement à cette prise de conscience au niveau international, des institutions d'ailleurs comme l'UNESCO ont commencé à s'intéresser à ces lieux particuliers, tout d'abord par leur richesse biologique. Et l'UNESCO d'ailleurs a financé des colloques et des programmes d'études comme le programme MAB, Man and Biosphere, sur les bois sacrés. Donc, c'est dans ce contexte que la notion de paysage culturel émerge en 1992. Alors, elle a été définie afin d'étendre les critères retenus pour l'inscription de biens culturels sur la liste du patrimoine mondial. Donc, le comité du patrimoine mondial, en 1992, a reconnu 3 catégories de paysages culturels construites par des regards extérieurs. Il s'agit donc des paysages créés, qui comprend les jardins et les parcs, les paysages évolutifs, reliques ou vivants, ils sont associés au mode de vie traditionnel, et les paysages associatifs, qui comprennent donc une association de phénomènes religieux, culturels, à l'élément naturel, comme les bois sacrés. Alors, en effet, les paysages culturels sont définis comme des ouvrages combinés de la nature et de l'homme, paysages transformés par l'homme au cours de son évolution économique, technologique et sociale. Donc, dans les 2 pays concernés, ici, la reconnaissance de paysages culturels permet donc d'intégrer des sanctuaires boisés ou bien donc des parcs naturels classés au moment de la colonisation. Alors, ces réflexions sur le patrimoine culturel africain ont donné lieu au Bénin à la publication d'un guide des paysages culturels de la région des Porto Novo par Souaïbou Varissou, qui date de 2001. Et dans ce guide, Souaïbou Varissou associe ces catégories de paysages culturels donc, à des itinéraires culturels et à des routes d'échange. Et en effet, bien des relations ont été démontrées entre certains sanctuaires boisés. Donc l'intronisation, par exemple, des dignitaires religieux ou politiques met en scène souvent une succession de lieux de culte qui traduit l'histoire de la migration. Donc ces itinéraires rituels reflètent l'histoire des migrations et la création de ces lieux de culte. On a donc à la fois une lecture topographique et odologique du paysage pour reprendre la grille d'interprétation d'Étienne Leroy. Alors, la notion de paysage culturel a permis donc d'intégrer ces sanctuaires boisés dans la liste des sites qui peuvent être inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Alors, ce n'est pas encore le cas au Bénin et au Togo, quoique ça commence, mais c'est ainsi que la forêt d'Oshun-Oshogbo au Nigeria est le premier sanctuaire boisé à être inscrit en 2005 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité en tant que paysage culturel. Donc ce site couvre environ 75 hectares le long d'une rivière, la rivière Oshun, et ce site est situé à environ 100 km au nord d'Ibadan, dans l'ouest du Nigeria. Donc l'organisation d'un festival annuel et sa revitalisation par les artistes du mouvement du Nouvel Art Sacré Yoruba ont permis son maintien et favorisé la demande d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. On a d'ailleurs, dans le cadre de ce mouvement d'art contemporain, basé sur l'art sacré, l'art religieux Yoruba, l'intervention d'une artiste autrichienne, Suzanne Wenger, qui est à l'origine du mouvement de revitalisation du festival et d'inscription de cette forêt sacrée sur la liste du patrimoine mondial. Et en 2008, deuxième sanctuaire boisé à être classé sur la liste du patrimoine mondial, il s'agit de 11 sanctuaires boisés des Kaya au Kenya, qui sont situés donc dans l'arrière littoral. Et dans ce cas, leur classement est lié essentiellement au maintien des rites tels qu'ils se déroulent aujourd'hui. Alors, un des effets secondaires de cette patrimonialisation institutionnelle de l'extérieur, c'est de fixer à la fois dans le temps et l'espace un lieu et les pratiques qui s'y exercent. Alors, au Bénin et aussi au Togo, certains sanctuaires boisés sont l'objet de toute l'attention des conservateurs du patrimoine, même s'ils ne sont toujours pas inscrits sur l'inventaire national du patrimoine. Alors depuis, et je vais donc vous parler de la forêt de Kpasse à Ouida, qui est donc un ancien port de traite de la côte des esclaves dans le sud du Bénin. Donc depuis la transition démocratique en 1990, le nouveau régime a pris le parti de s'appuyer à nouveau sur les pouvoirs locaux, politiques et religieux. Et en 1993, un festival international des arts vaudous a été organisé à Ouida, ancien port de traite donc, de la côte des esclaves. Alors, à cette occasion, les sites patrimoniaux de la ville ont été inventoriés et la forêt de Kpasse, que vous voyez ici, faisait partie donc, des sites du festival. Alors, la forêt de Kpasse doit son nom au fondateur de la ville de Ouida, dont le premier nom était Glewe, qui signifie maison, la maison dans le champ, et qui était donc la maison dans laquelle Kpasse, qui était donc un cultivateur Ouida, venait s'installer pour ses cultures. Et c'est l'endroit où il a donc disparu, et le lieu de sa disparition est donc devenu un lieu de culte et un sanctuaire boisé. Alors, dans le cadre de ce festival, l'État a financé l'installation de ce que... Alors, vous voyez donc Là, vous voyez la forêt et la clairière en 1990, où il ne se passait pas grand-chose. Elle était d'ailleurs fermée aux observateurs, aux étrangers, et j'ai pu y aller parce que j'étais accompagnée du Kpasenon, donc du responsable actuel de ce lieu. Donc l'État, dans le cadre du festival, a financé l'installation de sculptures réalisées par des artistes contemporains béninois. Après 1993, ces sculptures sont bien sûr restées sur place, mais le responsable a poursuivi les aménagements, à la fois à l'extérieur, notamment en construisant donc, ce mur et cette porte dite que j'appelle monumentale, hein, parce que c'est quand même impressionnant pour ce site. Ce site est donc devenu un musée vivant du vaudou. Donc Pasezoun, puisque c'est son nom, Pasezoun, est devenu emblématique des forêts sacrées au Bénin, et les gestionnaires du patrimoine ont commencé à s'y intéresser. Le site a été ouvert aux touristes, et la porte monumentale que je vous ai montrée dans la photo précédente comporte un guichet où les touristes donc payent leur entrée, leur droit d'entrée. Et ici, vous voyez donc la porte d'entrée qui est réservée à Kpasenon lorsqu'il vient pour les cérémonies. Et donc, tout le sanctuaire n'est pas ouvert aux touristes. Des endroits sont réservés aux cérémonies et aussi à un couvent d'initiation. Mais donc, ce site est maintenant reconnu et inscrit dans les guides touristiques et fait partie des visites obligatoires de la ville de Ouidah. Donc ce site est devenu emblématique des forêts sacrées et les gestionnaires du patrimoine surveillent ce site. Alors, des ateliers ont été notamment organisés par l'École du patrimoine africain qui est basée à Porto Novo. Et Kpasenon, donc le dignitaire responsable, ne peut plus agir comme il l'entend sans que la direction du patrimoine n'intervienne, de peur qu'il ne dénature le site. Alors que le culte des vaudous est dynamique et vivant, les divinités pouvant demander à être installées et honorées à tout moment. Donc les vaudounons ne peuvent plus édifier de temples sans avoir l'aval de l'administration. Alors voici un des aménagements. Donc là, nous avons une sculpture qui a été mise en place au moment du festival, et là, la construction d'un enclos pour cet arbre qui a été mis en place dans les années qui ont suivi. Et bon, je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire de ce lieu qui est étonnant. En effet, l'arbre s'est abattu au cours d'un orage, et cet événement a eu lieu en 1989, et il s'est miraculeusement redressé 41 jours après. Mais ce n'est qu'en 2002 qu'on lui a construit donc cet enclos, et qu'on a, parce que effectivement, il ne s'est évidemment pas redressé, mais on voit très bien que l'arbre a été cassé et qu'il a repoussé. Et donc ce lieu de culte est relativement récent, ce qui montre bien que ces cultes vaudous sont toujours aussi dynamiques, et des vaudous peuvent se manifester et demander à être honorés à tout moment. Voici donc un champ de maïs qui se trouvait donc juste à côté de cette... Qu'est-ce que je fais là ? Non ? Bon, on verra bien. Alors, donc, un champ de maïs jouxtait ce sanctuaire, et il se trouve que le vaudou dans s'est manifesté, et on lui a donc construit un enclos et une maison. Mais les travaux se sont arrêtés après l'intervention de la direction du patrimoine qui a estimé qu'il dénaturait le site. Alors évidemment, quand on voit ce mur en parpaing, on se dit que cela peut effectivement être considéré comme quelque chose de pas très joli, surtout si on a l'intention de classer ce site sur la liste du patrimoine à la fois national puis mondial. Mais on est en droit d'imaginer que cet espace, pour le moment nu et bétonné, va être conquis par la végétation, d'autant que Passenon, le responsable du sanctuaire voisin, a encouragé des plantations à la périphérie du sanctuaire et à l'intérieur même de la clairière. Donc, j'ai pu constater, d'ailleurs, entre 1990 et aujourd'hui, que le regain d'intérêt pour ce site a eu pour effet une densification de sa végétation. Donc, nous voyons à partir de cet exemple contemporain et urbain comment un sanctuaire boisé a pu devenir le symbole du patrimoine national. Et à l'exposition universelle qui a eu lieu à Aichi au Japon en 2005, les autorités béninoises ont choisi le thème des forêts sacrées pour le pavillon du Bénin, et des photos de la forêt de Ouida ont servi à la réalisation de la plaquette et du pavillon. Alors, d'autres sanctuaires, depuis 1993, se sont inspirés de la forêt de Kpassé pour développer un écotourisme basé sur ces sites sacrés naturels, qui deviennent donc emblématiques des paysages de ce pays et une cause nationale pour la protection de l'environnement. Et là, vous avez donc deux sculptures qui ont été réalisées en matériaux de récupération et qui ont été installées à l'intérieur de ce site. Et vous voyez donc une pancarte qui signale la présence, qui donne le nom du site, Bamezun, et qui localise donc pour les touristes l'emplacement de cette forêt qui n'est accessible que par le fleuve, et il y a un chenal qui conduit à ce site auquel on accède en pirogue. Alors, je n'ai malheureusement pas de photos pour un exemple de forêt sacrée située à Glidjipoji, dans le sud-est du Togo, et qui représente aujourd'hui un site patrimonial reconnu au niveau local, national et même international. En effet, une grande fête appelée Yeke Yeke réunit chaque année en août-septembre tous les membres de la communauté Guin qui vit au Togo, mais aussi les Guins qui viennent des pays voisins, notamment du Ghana et du Bénin. Donc, cette réunion annuelle a rassemblé de plus en plus de monde et a fait de ce site un important lieu de mémoire pour la diaspora Guin. Et le sanctuaire des 41 vaudougains est au cœur de cette cérémonie, car c'est là qu'a lieu la prise de la pierre sacrée qui marque le début des festivités. Donc, cette forêt s'appelle Guin-Yewewe, ou forêt des vaudougains. Et à leur arrivée à Glidji, après leur défaite face aux Akwamou à Accra vers 1680, les Guins y ont placé leur vaudou, emporté donc dans leur fuite. Donc cette forêt peut être considérée comme une forêt relique, elle existait avant leur installation. Alors, elle est inscrite depuis 2000 sur la liste des paysages culturels et naturels du Togo et donc classée paysage associatif. Elle est considérée comme le cœur spirituel de l'agglomération d'Aneho-Glidji qui a été proposée à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial en octobre 2000. Donc, peut-être que vous avez eu le temps de lire ce texte, je ne vais pas le faire. Donc, le projet d'inscription prévoit un suivi de l'ensemble du site de la ville d'Aneo et de Glidji, dont la surveillance de la forêt afin d'assurer sa conservation. Alors, des plantations périphériques ont été réalisées d'ailleurs dans le cadre de la journée de l'arbre. Alors, je n'ai pas de photos et comme à chaque fois que je fais un exposé sur les sanctuaires boisés, il se passe toujours quelque chose, je n'ai pas retrouvé de photos numérisées de la forêt de Glidji dans mes archives. Voilà, donc je ne peux pas vous la montrer. Je pense que c'est la puissance des 41 vaudous qui fait que ils n'ont pas voulu que je vous la montre. D'ailleurs, elle reste fermée au tourisme et à toute personne étrangère, contrairement à la forêt de Ouida que je vous ai montrée précédemment. Donc, en écho à cette prise de conscience au niveau international de l'intérêt que peuvent représenter donc les sanctuaires boisés, à la fois comme sanctuaires de la biodiversité, mais aussi comme éléments structurants des paysages culturels, on assiste à la reconnaissance par les habitants eux-mêmes de la valeur patrimoniale de ces sites sacrés naturels. En effet, donc, depuis la transition démocratique de 1990, au Bénin particulièrement, l'attachement identitaire, patrimonial et sentimental nettement affirmé des habitants pour leur bois sacré s'est beaucoup développé. Alors, le festival de Ouida, dont il a déjà été question, a marqué donc le début de la prise de conscience des responsables locaux de l'intérêt que ces sites sacrés peuvent représenter pour le développement. Je suis allée dans plusieurs villages et à plusieurs reprises, les responsables, les vaudounons, m'ont parlé de leur projet de développement du tourisme dans leur village basé sur la présence de leur forêt sacrée, dont certains veulent même, que certains veulent même transformer en zoo ou créer des pépinières pour revendre des plantes. Donc, il y a des projets qui naissent ainsi. Alors, ceci n'est pas sans lien, d'ailleurs, avec le rôle des médias, de la scolarisation, de l'exode rural, qui ont donc un effet sur le comportement des nouveaux chefs. Alors, je les appelle nouveaux chefs parce qu'il y a quand même une transition que j'ai pu observer depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Et donc, les vieux... excusez-moi ce terme, mais c'est le terme local, ont disparu et ceux qui les remplacent, qui sont donc les nouveaux responsables, dont voici un représentant, et vous pouvez d'ailleurs voir sur le mur que ces croyances ne sont pas seulement vaudous. Il a d'ailleurs quitté le séminaire pour venir s'asseoir sur le siège de ses ancêtres. Il n'a pas eu le choix. Et c'est donc lui maintenant le responsable du sanctuaire boisé de son village. Et à gauche, vous pouvez voir la couverture des statuts d'une association. Alors, ces associations, des associations donc. Se multiplient des associations de conservation des pratiques religieuses, des associations de conservation de ces sites, de ces sanctuaires se multiplient, et ce qui peut s'observer, enfin ce que j'ai pu remarquer notamment en lisant le journal officiel et les déclarations de ces associations qui sont en nombre grandissant. Donc, les pratiques religieuses vaudou sont elles-mêmes en mutation et montrent donc montrent une adaptation des rites qui est inspirée à la fois par un syncrétisme avec les autres religions et donc un dynamisme interne au culte des vaudous. Donc, les revendications identitaires autour des vaudous se développent et s'expriment de plus en plus autour de différentes manifestations, et notamment lors de la fête des religions traditionnelles du 10 janvier, qui a été décrétée en 1995 par le président de la République. Et donc, dans ce mouvement, on observe donc les déclarations de création d'associations liées à ces traditions religieuses. Donc, ces sites deviennent emblématiques de la culture nationale et de la bonne gestion environnementale des dignitaires religieux traditionnel. Alors j'en arrive à la fin de mon exposé et je vais faire un petit parallèle, je tente un parallèle entre, d'une part, la disparition de nombre de ces sanctuaires boisés et l'intérêt croissant que leur accordent donc les intellectuels et les lettrés, non comme des lieux de culte, mais comme des sites patrimoniaux et des conservatoires de la nature, des monuments de la nature. Et dans un tout autre contexte, la prise de conscience en Angleterre, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, que l'industrialisation et l'urbanisation massive bouleversent les paysages, bouleversement qui va conduire à l'idéalisation nostalgique de la nature et de la campagne anglaise et à l'émergence d'une politique de protection de l'environnement. Donc on retrouve cette idéalisation dans les paysages, dans les peintures de paysages, notamment de Constable, qui est donc un des premiers peintres paysagistes anglais de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui aboutira donc aux premières mesures de protection courant 19e. Et au Bénin aussi, la déforestation semble rimer avec idéalisation de ces objets dits naturels que sont les bois sacrés. Et voilà une photo, alors que je trouve quand même assez ressemblante. Enfin, moi, je fais un parallèle avec les sanctuaires boisés isolés des campagnes du sud Togo et du sud Bénin. Voici une photo d'une campagne anglaise où on peut voir quelques îlots forestiers. Et j'étais tellement curieuse que je suis allée voir, et à l'intérieur de ces bosquets, il y avait des tumuli. Voilà, le parallèle me paraît assez pertinent. Et j'en arrive à ma conclusion pour vous dire que les habitants de cette région qui vivent ces paysages les interprètent donc à partir des marqueurs végétaux qui les composent, les plantes indicatrices de limites forestières que l'on retrouve dans les sanctuaires boisés, les arbres et les formations arborées. Donc la lecture des paysages est donc à la fois foncière, rituelle et fonctionnelle. Ce tour d'horizon des bois sacrés ou sanctuaires boisés a montré qu'ils sont des éléments fondateurs des paysages de cette région du monde. Ils en sont les éléments structurants, relativement permanents, même s'ils subissent la compétition des cultures et des autres religions. Mais ils sont aussi des éléments dynamiques qui peuvent disparaître, mais aussi renaître ailleurs et être créés donc, en fonction des divinités qui, elles-mêmes, sont des entités mouvantes dans le temps et l'espace. Je vous remercie.